Et le journal vous est présenté par Thomas Larabie. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Une semaine de retard seulement pour les livraisons du vaccin Pfizer-BioNTech en Europe. Annonce des laboratoires et ouf de soulagement pour les dirigeants qui craignaient plusieurs semaines de flottement. On y revient en détail au début de ce journal. Alors que toute la France est sous couvre-feu depuis quelques secondes maintenant, on continue de mesurer l'impact social et indirect du Covid-19 aujourd'hui sur les étudiants. Reportage dans un instant sur ces associations qui distribuent toujours plus de colis alimentaires aux jeunes dans le besoin. Et puis en Allemagne, le parti chrétien-démocrate a choisi comme président le centriste Armin Laschet, le choix de la continuité alors qu'Angela Merkel rend son poste de chancelière à l'automne prochain. On y revient à la fin de cette édition avec notre correspondant à Berlin, Ludovic Piétenu. Coup d'envoi des vaccinations contre la Covid-19 en Inde. Un défi phénoménal, peut-être le plus grand dans ce pays d'1,3 milliard d'habitants et un défi compliqué par des contraintes de sûreté, de logistique, mais aussi de méfiance de la population. Les premières semaines sont réservées aux 30 millions de personnels de santé exposés. Deux vaccins y sont utilisés, dont un produit en Inde qui a été autorisé en urgence avant même la fin des essais cliniques. Notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farsi, a rencontré l'un des premiers Indiens qui a reçu ce vaccin.
Davan Dvivedi a l'air ravi. Cet infirmier de 35 ans de l'hôpital public Ames de New Delhi a été l'un des premiers à recevoir une dose du vaccin anti-Covid du laboratoire indien Bharat Biotech.
So I'm proud of my doctors, my researchers.
Je suis fier de mes docteurs et chercheurs et des scientifiques qui ont travaillé sans relâche pour développer ce vaccin. Ceci afin que je puisse recevoir un vaccin fait en Inde. Je me suis donc fait vacciner en toute confiance et j'inciterai les autres à faire comme moi pour éradiquer ce virus.
Le ministre de la Santé assure que ce vaccin indien est totalement sûr, mais difficile de prouver son efficacité car il a été approuvé avant la fin des essais cliniques. Cet employé de l'hôpital Ames, lui, demeure prudent.
Comme nous travaillons dans la santé, l'administration s'attend à ce que nous nous fassions vacciner rapidement, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, j'attendrai qu'on ait plus de chiffres sur l'efficacité des vaccins sur la population indienne.
Le laboratoire indien Bharat Biotech assure qu'il paiera des indemnités aux patients qui souffriraient d'effets secondaires graves. Une association de docteurs du secteur public a, elle, exigé de recevoir le vaccin d'Oxford-AstraZeneca, également utilisé par l'Inde dès aujourd'hui, mais surtout distribué dans le privé. À New Delhi, Sébastien Farsi, RFI pour France Inter.
RFI pour France Culture, évidemment. Sébastien Farsi, notre correspondant à New Delhi. Du côté de l'Union européenne, on craignait un retard de plusieurs semaines pour les livraisons du vaccin Pfizer-BioNTech. Pierre Benazet, bonsoir.
Bonsoir.
Les laboratoires rassurent aujourd'hui, ils estiment finalement ce retard à une semaine seulement.
Oui, effectivement, parce que c'est seulement jusqu'au 24 janvier que les livraisons de vaccins de Pfizer, le BNT162B2, subiront des retards. En tout cas, c'est ce qu'annonce le laboratoire américain. À partir du 25 janvier, l'usine européenne de Pfizer, qui est à Purse, près d'Anvers, reprendra le rythme initialement prévu pour les livraisons vers l'Union européenne de ce vaccin conçu par BioNTech. C'est une très nette amélioration, évidemment, par rapport aux 3 à 4 semaines de retard qui étaient annoncé hier et qui avait provoqué 24 heures de colère de la part des Européens. La protestation officielle des trois pays baltes et des trois pays scandinaves de l'UE, le coup de téléphone de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au directeur général de Pfizer ont apparemment porté leurs fruits. Après avoir d'abord assuré hier que les doses promises dans les contrats avec l'Union européenne pour 600 millions de doses au total, hein, on s'en souvient, que ces doses seraient bel et bien livrées d'ici la fin du premier trimestre comme prévu, avec une accélération fin février, début mars, ça c'était l'annonce d'hier. C'est désormais pour le 15 février, annonce Pfizer aujourd'hui, qu'il y aura une augmentation des livraisons pour l'Union européenne.
Les précisions de Pierre Benazet depuis Bruxelles. Il est 18h04 et depuis 4 minutes, la France entière est sous couvre-feu. Nouvelle mesure de restriction pour au moins 15 jours en pleine course contre la montre pour vacciner la population et tenter d'enrayer l'épidémie de Covid-19. Le nombre de cas reste élevé dans le pays avec environ 20 000 nouveaux cas comptabilisés chaque jour depuis le début de l'année selon Santé publique France, bien loin des 5 000 espérés à la mi-décembre par le gouvernement. Par ailleurs, un cas de variant sud-africain du coronavirus a été détecté à Mayotte. Les autorités ont décidé de suspendre les liaisons maritimes et aériennes internationales pour 15 jours à partir de demain. Les déplacements entre Mayotte, la métropole et la Réunion ne sont autorisés que pour motif impérieux. Et on continue en France de mesurer l'impact social du Covid-19, l'épidémie qui touche, on le sait, durement les étudiants financièrement, mais aussi moralement. Ce week-end à Paris, et malgré la neige, les associations étudiantes d'Uber dans les Épinards et COP1 distribuent des colis alimentaires et hygiéniques aux jeunes dans le besoin. 1500 lots sont prévus et les étudiants viennent en nombre. Bonsoir Louise Adélaïde Boinard.
Bonsoir.
Vous êtes allée sur place et si certains étudiants avouent avoir jusque-là fui ces aides alimentaires par honte, eh bien être aidés par des bénévoles eux-mêmes étudiants en a convaincu un certain nombre, Louise Adélaïde.
Oui, comme vous l'avez dit, les jeunes ont honte de réclamer de l'aide alimentaire. Aller à la Croix-Rouge ou au Resto du Cœur reste trop dur pour certains, même s'ils sont légitimes à le faire. Estelle De Sève, la fondatrice du beurre dans les épinards, l'a remarqué. Elle travaille uniquement avec des étudiants et des cités universitaires. Son but, montrer aux jeunes qu'ils ne sont pas seuls.
C'est pas la même chose quand vous allez chercher un paquet de riz au Resto du Cœur ou quand vous avez une start-up qui débarque avec que des jeunes, qui met en place un réseau de distribution avec des étudiants relais qui connaissent leurs petits camarades et qui sont au même niveau, on va dire. Ça a tout changé. Ils n'avaient pas l'impression qu'on faisait une sorte de misérabilisme en disant « pauvres petits étudiants, il faut qu'on s'occupe d'eux ». C'était « on est tous ensemble à lutter contre la précarité étudiante ».
Cette solidarité est essentielle car les étudiants sont isolés. Ils n'ont plus cours en présentiel depuis septembre. Avec ces distributions, ils recherchent aussi de la compagnie et du contact. Ulysse de Gutmann-Fort de l'association Copains le voit de plus en plus.
Et on a aussi beaucoup de retours qu'on n'attendait pas, notamment de gens qui nous disent « Ah mais c'est super cool, on peut discuter », notamment pendant les confinements. On peut discuter, ça se passe bien, il y a une bonne ambiance. Et donc ça c'est vraiment hyper gratifiant parce qu'au-delà juste de donner le panier alimentaire, les produits d'hygiène, et ben on va essayer d'instaurer une relation de confiance, peut-être d'amitié, pourquoi pas, et discuter à chaque étape avec les étudiants pour que, voilà, s'ils sont tout seuls dans leurs 9 mètres carrés, à ce moment-là, au moment où ils viennent chercher leur panier, en plus de l'aide alimentaire, il y a une espèce d'aide sociale, ou en tout cas de sociabilité.
Eve vient pour la troisième fois. Passer le cap a été très dur, mais maintenant elle ne voit plus que les avantages.
Comme c'est des étudiants, on discute pas mal. Ça prouve qu'on n'est pas tout seul et qu'en fait, suffit juste de dire « j'ai plein de problèmes, aidez-moi » et ça se règle parce que comme on a le même âge et qu'on a les mêmes problèmes, on a plus de conseils de personnes qui vivent la même chose que nous. Donc on se sent pas tout seul.
Les distributions continuent demain à Paris et sont ouvertes à tous les étudiants sans condition.
Les précisions de Louise Adélaïde Boinard. Près de 80 rassemblements ont lieu cet après-midi en France contre la loi de sécurité globale. Cette loi qui restreint notamment la diffusion d'images des forces de l'ordre. Une mobilisation qui dure maintenant depuis le mois de novembre. De nombreuses associations appelées à défiler pour, je cite, le droit à l'information, contre les violences policières, pour la liberté de manifester et contre la surveillance de masse. À Paris, les forces de l'ordre sont intervenues pour empêcher la tenue d'une rave party non déclaré à proximité de la manifestation. Accord entre les dirigeants du Conseil français du culte musulman aujourd'hui sur une charte des principes de l'islam de France. Trois des principaux dirigeants du CFCM qui avaient coupé le dialogue entre fin décembre étaient reçus par Gérald Darmanin cet après-midi. Cette charte réaffirme notamment l'égalité homme-femme, mais surtout la compatibilité de la foi musulmane avec la République qui était au cœur des tensions au sein du FCFM. Direction l'Allemagne où le premier grand rendez-vous politique de cette importante année électorale avec des élections législatives dans 8 mois a eu lieu. La chancelière allemande s'apprête à quitter la vie politique après bientôt 16 années de pouvoir et Angela Merkel prépare sa succession. Cela a commencé pour elle dès aujourd'hui par s'assurer de qui allait devenir président de son parti, l'Union du Centre et de la droite allemande. Il y avait 3 candidats, 3 hommes et c'est celui qui avait ses faveurs, Armin Laschet, qui l'a emporté. C'est donc aussi une victoire pour Angela Merkel, Ludovic Piétonu.
Absolument, vous savez, Angela Merkel fait la pluie et le beau temps. J'ai envie de dire, c'est un petit peu normal pour quelqu'un qui a pris ce parti, il faut le rappeler, en l'an 2000, qui l'a tenu pendant 18 ans. Normal aussi pour celle qui tient encore les rênes en Allemagne depuis bientôt 16 ans et son élection comme chancelière en 2005. Il y a 2 ans déjà, souvenez-vous, lors du dernier congrès à Hambourg, quand elle avait quitté la CDU, Friedrich Merz, déjà lui, battu encore aujourd'hui, avait été défait par celle qu'elle avait désignée comme sa dauphine, AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, finalement démissionnaire sous la pression de ces messieurs. Aujourd'hui, elle avait fait le choix Laschet et c'est lui qui l'emporte face à 2 adversaires, Merz donc et Norbert Röttgen, qui ont pour point commun de s'être fâchés avec la chancelière, respectivement en 2002 pour l'un et en 2012 pour l'autre. Une longue carrière politique comme la sienne laisse forcément des traces, on ne se fait pas que des amis, mais elle veut préserver son héritage à tout prix et elle usera de son influence pour peser sur la suite d'ici mars-avril, quand sera désigné le candidat de l'union de CDU-CSU pour les législatives du 26 septembre.
Les précisions depuis Berlin de Ludovic Piétenu. Un mot de votre météo pour finir. 23 départements sont toujours en vigilance orange, neige et verglas. Demain matin, du soleil sur le quart nord-ouest et sur le pourtour méditerranéen, de la pluie partout ailleurs. Les températures iront de 1 à Strasbourg jusqu'à 14 à Perpignan.